Bonsoir. Bon, vous êtes confronté aujourd'hui avec un sujet bateau et à la limite ennuyeux. C'est-à-dire, c'est une banalité de parler de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'amour du prochain étant, on pourrait presque dire, ressassé dans, aussi bien dans l'enseignement du judaïsme que les havdil dans l'enseignement du christianisme. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à dire là-dessus ? À moins d'entendre, si vous voulez, un discours lénifiant et classique, ou bien quelque chose qui se voudra à tout prix paradoxal, et ça aussi, c'est un peu ennuyeux. Donc, ce que je me propose de faire avec vous, c'est de réétudier ce que signifie cette phrase bien connue, le faire de la manière, disons, la plus fondamentale possible. Nous allons étudier ce que, dans la tradition, on entend par « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui est quand même important, puisque d'après Rabbi Akiva, c'est toute la Torah qui est inclue dans ce verset. À ce propos, je voudrais quand même rappeler une petite phrase de Manitou. Vous savez qu'en hébreu, Rabbi Akiva disait à propos de « Ve'ahavta le'reacha kamocha »« tu aimeras ton prochain comme toi-même »« Ze klal gadol batorah » Alors on traduit d'habitude, c'est une grande règle de la Torah. En fait, Manitou disait « Ze klal gadol batorah » C'est la règle de quelqu'un qui est grand dans la Torah. C'est-à-dire s'il est vraiment grand dans la Torah, donc sa règle c'est « Ve'ahavta le'reacha kamocha » C'est ce qui va ressortir de l'ensemble de sa Torah. Alors évidemment, c'est pas très simple parce que dans la culture judéo-chrétienne, enfin quand on dit judéo-chrétienne, ça veut dire chrétienne, on a l'habitude de dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans les évangiles. Bon, on oublie que c'est écrit également dans Vayikra. Ah d'accord, très bien. Oui. Alors maintenant, grâce à vous, alors c'est fini. Maintenant, on sait que c'est également dans le Lévitique. Mais malgré tout, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, c'est pas simplement, comment dirais-je, un oubli malencontreux. On a oublié de dire que c'était également dans la Torah. Il y a une raison profonde à cet oubli. C'est que, effectivement, le christianisme se présente dès le départ, d'emblée, comme une religion d'amour. Ce qui, a priori, n'est pas le cas du judaïsme. Le judaïsme ne se présente pas comme une religion d'amour. C'est vrai que l'amour en fait partie, l'amour de Dieu pour ses créatures, l'amour des créatures pour Dieu, l'amour des hommes pour les hommes, et l'amour universel, ça existe. Mais ce n'est pas, disons, la valeur exclusive du judaïsme à la manière dont c'est présenté dans le christianisme. Donc, on n'est pas étonné de voir « tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans les évangiles, on est étonné de le trouver dans la Torah quand même. Et effectivement, donc on peut se tromper sur la nature de la Torah. Quelles sont les valeurs, quelle est l'échelle des valeurs défendues par la Torah, puisque effectivement, il y a plusieurs valeurs, l'amour, la justice et tout le reste. La connaissance, enfin, on pourrait multiplier. Et il y a un midrash à ce propos qui raconte que lorsque Moïse est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges se sont opposés. Ils ont dit... un être humain, Yeloudisha, né dans le ventre d'une femme, qu'est-ce qu'il fait parmi nous ? Et bon, il y a plusieurs versions dans le Midrash de la réaction de Akadosh Baruch Hu. Un des Midrashim nous dit que Moïse a revêtu le visage d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu a transformé le visage de Moshe pour le faire ressembler à Abraham. Et il a dit aux anges, mais enfin, qu'est-ce que c'est ces histoires ? Vous avez pardon. Vous avez mangé chez lui à midi. Et maintenant, vous lui faites des histoires. Alors, je dis, bon, d'accord. Bon, alors, ça veut dire quoi ? À nouveau, c'est une interprétation de Manitou, très, très importante, qui est que pour que la Torah soit donnée aux hommes, il faut qu'elle ait le visage d'Abraham. Abraham étant celui de nos patriarches qui nous a enseigné l'amour du prochain. Et donc, s'il n'est pas clair dès le départ que cette Torah, avec toutes les lois de rigueur qu'elle contient, a pour finalité l'amour, alors elle ne peut pas être donnée aux hommes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait que Moshe ait le visage d'Abraham. Évidemment, si c'est vrai ce qu'on vient de dire, et je vous assure que c'est vrai, ça veut donc dire que le projet de l'amour du prochain dans le judaïsme se veut plus sérieux que l'amour du prochain tel qu'il est envisagé dans le christianisme. On en a déjà parlé dans la conférence d'hier soir, et je voudrais reprendre un peu ce thème-là. C'est-à-dire, on peut dire que l'appel à l'amour qu'on trouve dans le christianisme, c'est on attend un geste, on attend un mouvement de l'âme qui prouverait que l'on est capable d'aimer. Et ce que l'on demande, c'est donc, je reprends ici donc dans l'état d'esprit du christianisme, on demande de dominer la cruauté de la nature. C'est-à-dire, le monde est un monde, comment dirais-je, qui n'est pas dominé, qui n'a pas comme équation fondamentale la moralité. Les lois de la nature sont immuables, elles sont des lois rigoureuses. Eh bien, il faut faire l'effort de surmonter la loi du monde pour faire preuve d'amour. Et donc, ça demande un amour quasiment irrationnel. Bon, on connaît bien sûr la célèbre phrase qu'il faut donner l'autre jour. C'est-à-dire parce que si vraiment il faut aimer, ben il faut aller contre la nature. Par contre, ce que l'on voit dans l'enseignement de la Torah, c'est que la loi de la nature, la loi du monde, c'est une loi morale dès le départ. Et cela dépend d'un concept qui a besoin d'être élucidé, c'est le concept de création. C'est-à-dire, Dieu, dans la tradition juive, est considéré comme le créateur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut vouloir dire qu'il est, comme disaient les philosophes, par exemple, la cause première, l'origine. Mais dans tout cela, il n'y a rien de fondamentalement moral. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un commencement à tout. Eh bien, le commencement de tous les commencements, c'est Dieu. Tandis que dans la tradition d'Israël, on parle de Dieu en tant que créateur. La création veut dire un acte voulu, réfléchi, pensé, de donner l'être à un autre. Et donc, la création est dès le départ un acte d'amour. Et donc, le « Ve'ahavta le'reacha kamocha », tu aimeras ton prochain comme toi-même, s'insère dans l'ordre de la création. C'est vrai qu'il y a un écran de nature impersonnelle qui donne le sentiment que l'amour et la moralité ne sont pas le principe de base de l'être, mais nous le savons par révélation, nous savons que le monde est le fruit d'un acte d'amour, et donc nous avons le droit d'exiger la moralité, non pas pour surmonter l'ordre du monde, mais pour vraiment le prolonger, pour vraiment le réaliser. Il y a, vous savez, bon, ça c'est un peu des débats scolastiques, mais c'est intéressant quand même. Vous savez qu'il y a eu tout un débat au Moyen-Âge à propos de ce qu'on appelait les attributs divins. Qu'est-ce que l'on peut dire de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de dire, de le définir? Est-ce qu'on peut le définir de manière positive, de manière négative, et tout le reste? Bon, et les kabbalistes ont entré là-dedans, Maïmonide. Je ne vais pas vous faire un cours de scolastique moyenâgeuse, mais c'est très intéressant, mais on n'a pas le temps. Simplement, un petit point quand même qui mérite de l'attention. Il y a eu un sage au XVe siècle en Espagne, Rabbi Rizdai Crescas, un des plus grands philosophes de l'histoire. En fait, c'est lui qui a renversé pour la première fois l'aristotélisme. Rabbi Rizdai Crescas, dans son livre Or Hachem, affirme qu'il y a un seul attribut qu'on a le droit de donner au Créateur, c'est l'attribut de l'amour. C'est-à-dire, il aime sa créature, ou plus précisément, il est devenu amoureux, et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc, alors, on peut discuter de la validité théologique de cette définition, mais enfin, c'est quand même important. Maintenant, pourquoi je vous parle tout le temps de Dieu, alors qu'en général, les Juifs n'aiment pas le faire? C'est-à-dire, en général, on n'aime pas faire de la théologie. C'est parce que dans la fameuse expression qui est censée être toute la Torah, Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a un petit bout qu'on oublie de citer. Je suis Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Il y aurait donc un rapport entre la possibilité d'aimer son prochain et la présence de Dieu parmi les hommes. Et là, il faut peut-être approfondir la chose. De quelle manière est-ce que l'on est jugé sur le plan moral? C'est-à-dire, quel est l'enjeu de la morale? Et je tiens à rappeler à nouveau un thème que nous avons abordé hier à travers l'enseignement du Maharal de Prague. Il y a trois enjeux parallèles pour la personne morale. Une qu'on appelle Ben Adam Lamakom, la relation entre l'homme et son créateur. La deuxième, la relation de l'homme envers son prochain. La troisième, la relation de l'homme envers lui-même. Et ce n'est que lorsque ces trois relations sont pleinement assurées que l'on peut être assuré d'être un être moral. Et là, il y a une petite remarque que faisait Manitou à propos de l'insertion de ces trois relations dans l'histoire. Quand on lit la Torah, on voit qu'au début de l'histoire, dans le jardin d'Éden, ça veut dire donc en dehors de l'histoire, l'homme est jugé pour sa capacité d'être fidèle au commandement. On lui a dit, ben voilà, tu mangeras de ça, tu ne mangeras pas de ça. Si tu fais ce qu'on te dit, eh bien, tu seras jugé en fonction de ça. Tu as fait comme ça, tu es jugé comme ça, tu fais autrement, tu es jugé autrement. Mais tout cela n'est possible, en vérité, que dans le jardin d'Éden. Parce que c'est dans cet état d'âme, c'est dans cet état en dehors de la vie corporelle, qu'il y a une relation, on peut dire, directe de la créature envers le Créateur. Mais une fois que nous sommes évacués de là-bas et que nous sommes jetés dans l'histoire, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de relation véritable de l'homme envers son Créateur. C'est fini. C'est-à-dire, il y a une foi, on peut dire qu'on y croit. Il y a de temps en temps des révélations. Mais la vie permanente, eh bien, c'est de l'homme envers son prochain. Et donc, on est jugé dans l'histoire, donc par la relation Ben Adam Lachavero, de l'homme envers son prochain, parce que c'est la manière de savoir comment est-ce que je m'adresserais à mon Créateur si je pouvais le rencontrer. Mais maintenant, je ne peux pas le rencontrer, alors je le rencontre à travers mon prochain. C'est comme si mon prochain, c'était mon Créateur. Bon, vous connaissez tout ce thème qui a été très développé dans le Maharal de Prague et qui a été repris après par Emmanuel Levinas. C'est que l'autre, c'est à la fois mon autre et c'est mon moi-même à la fois. Il en est de même pour le Créateur. Le Créateur, il est moi-même puisqu'il est la source de ma vie, mais il est l'absolument autre puisque je ne suis pas lui. Je suis une créature et pas Créateur. Et donc, à travers la relation envers mon prochain qui est à la fois autre et moi-même, on peut, disons, se représenter de manière figurée ce que serait ma relation envers Akadosh Baruch Hu si j'étais en contact direct avec lui dans le Gan Eden. Et puis vient un temps qui est après l'histoire. Alors après l'histoire, quand tout est achevé, quand on en a fini d'acquérir le mérite d'être, eh bien on est jugé pour sa relation envers soi-même. Parce que dans moi-même, il y a également une valeur. Je suis également le prochain de moi-même et j'ai donc un devoir moral envers moi-même en tant que mon prochain. Et ça, c'est ce qui se passe, enfin, l'histoire. Maintenant, si vous comprenez... Oui ? Non, non, le premier prochain, c'est le Créateur. Le deuxième prochain, c'est mon prochain. Et le troisième prochain, c'est moi-même. Ça dépend de quel moment dans quel moment de l'histoire je me trouve. Si je suis avant l'histoire, pendant l'histoire ou après l'histoire. Voyez-vous ? Et ça explique d'ailleurs pourquoi il y a tout un débat dans le Midrash pour savoir quel est le verset le plus important de la Torah. Il y a un Midrash qui n'est pas très connu, d'ailleurs dont on ne connaît pas véritablement la source, mais qui est cité, donc on sait que ce Midrash existe. Il est cité par des auteurs, mais on ne connaît pas la source elle-même. Qu'il y aurait trois opinions à propos du verset le plus important de la Torah. Alors vous avez celui qui dit « Ve'afta le'reacha kamocha », c'est connu, et puis le deuxième qui dit « Ze sefer toldot Adam », c'est le livre de l'engendrement de l'homme, et le troisième qui dit « Et akeves echad ta'aseh baboker, et akeves hasheni ta'aseh ben ha'arba'im ». Le premier mouton, tu le présenteras le matin, et le deuxième mouton, tu le présenteras l'après-midi. Voilà, ça c'est le sacrifice perpétuel, le korban atamid, qu'on présentait tous les jours. Il était fait de deux moutons. Eh bien, il y avait un mouton qui était sacrifié le matin, un mouton qui est sacrifié l'après-midi. Eh bien, c'est ça le verset le plus important de la Torah. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, à nouveau, ce sont les trois relations en question. Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est la relation envers mon prochain. Ze sefer toldot Adam, le livre de l'engendrement de l'homme, c'est l'homme envers lui-même, c'est l'homme qui s'engendre lui-même. Et puis le troisième, le mouton du matin et de l'après-midi, ben, c'est la relation envers Dieu. Et c'est un acte d'amour de tous les jours. Donc on peut très bien comprendre que c'est ça le verset le plus important de la Torah. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que l'amour ici est indifférencié. C'est-à-dire il n'y a pas ce choix qu'on doit faire en général entre... Il faut d'abord, vous savez, il y a des discours moralisateurs qui disent « Il faut d'abord s'acquitter de ses devoirs envers son prochain et après on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. » Critique voilée du culte religieux. D'autres diront « Non, 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 il faut surtout d'abord être en accord avec la halakha et après on s'acquitte de la morale. » Alors vous savez, c'est une sorte de cléricalisme étriqué qui refuse la morale naturelle. Eh bien, Quand on voit ce que disent les Midrashim qu'on a cités jusqu'à présent, on voit très bien qu'en fait le problème n'existe pas. C'est-à-dire l'amour est un amour qui ne fait pas de différence. Par définition, l'amour ne peut pas faire de différence. Donc je ne peux pas, dès le départ, faire une différence entre mes devoirs envers mon prochain, qu'il soit homme ou qu'il soit Dieu. Peu importe, de toute manière, j'ai mon devoir envers mon prochain. Vous savez, il y a un célèbre passage du Talmud dans lequel un païen demande à Hillel de lui apprendre toute la Torah lorsqu'il est sur un pied. Alors qu'est-ce que lui répond Hillel? C'est très connu. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, eh bien ne le fais pas à ton prochain et le reste n'est que commentaire. Alors, où est-ce que Hillel a été chercher tout ça? Eh bien, Rashi nous dit, il l'a cherché dans le Ve'avta le'recha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors demande Rashi, mais et les devoirs envers Dieu, ben, c'est la même chose. Re'acha, ton prochain, ben, c'est également le Créateur. Il mérite autant que ton prochain que tu aies de l'amour pour lui. En fait, c'est le même. Avec une petite différence quand même. C'est que aimer son prochain, ça se traduit par des actes, tandis qu'aimer le Créateur, ça ne se traduit pas par des actes. Ça se traduit par un sentiment. Vous savez, en hébreu, il y a deux mots, il y a deux verbes différents pour aimer. L'un, c'est l'éhov et, et l'autre, c'est l'éhov le. Par exemple, dans la lecture du schéma, on dit Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et là-bas, le verbe a une petite conjonction, c'est et. Ce qui signifie c'est le signe du complément d'objet direct. Et en hébreu, vous avez pour tu aimeras ton prochain, c'est Ve'ahavta le'reacha. Tu aimeras en faveur de ton prochain. Le lamed, la lettre lamed, signifie en faveur de ton prochain. Et la conséquence au niveau pratique, c'est que envers ton prochain, tu as des devoirs pratiques. C'est-à-dire, si tu vois ton prochain dans la nécessité, il a besoin d'aide, il a besoin de consolation, etc., tu dois le faire. Tandis que le Créateur n'a rien à attendre de toi, donc tu ne peux que l'aimer dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a la différence entre Ve'ahavta et Ve'ahavta le. Mais finalement, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours de mon prochain dont il est question. De ce point de vue-là, et là je reprends ici un enseignement du Rav Kook, l'athéisme, quand il est sérieux, ce qui est en général très rare, parce que l'athéisme, aujourd'hui pratiquement ça n'existe pas, mais enfin, quand il est vraiment sérieux, eh bien il y aurait une négation du prochain qui est très grave. C'est-à-dire, tu es prêt à admettre l'existence, dans le sens existentiel du terme, de ton prochain, et celui qui t'a donné la vie, tu ne veux pas reconnaître son existence. Il y a ici un problème moral. Vous voyez, donc tout le problème de la foi en Dieu, de la non-foi en Dieu, n'est pas compris dans la tradition comme étant un problème de théologie, mais comme un problème de morale. Oui.
Si vous avez cette approche, quel est le statut d'une seule dans son cœur, que devient le statut?
Non, pas du tout. Non, justement, c'est une très bonne question. Ce n'est pas par les mitzvot que nous aimons Dieu. Je dirais plutôt le contraire, c'est par les mitzvot que Dieu nous aime, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, chacun son acte d'amour. C'est-à-dire, s'il nous aime, alors il nous a donné des mitzvot, parce qu'il veut nous parler, il veut se mettre en rapport avec nous. C'est très important ce que vous dites, parce que sinon, on tomberait dans une sorte de mystique, qui serait que l'homme pourrait faire une ascension vers l'infini. Ce qui est absurde. C'est-à-dire, si je suis un être fini, je ne peux pas entrer en contact avec l'infini. Vous voyez, d'où la crise religieuse d'ailleurs de nos jours. Quand les hommes se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de monter jusqu'à Dieu, ils ont cessé d'y croire. Ce qui est justifié d'ailleurs. Et tandis que ce que dit la Torah à propos des mitzvot, c'est que c'est le Créateur qui vient à l'homme, et ça il peut le faire, il n'est pas gêné lui par des problèmes de philosophie. Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours une prééminence du moral sur le métaphysique. J'ai toujours l'habitude de dire, vous savez que dans la critique de la raison pure, Kant s'est posé le problème de ce qu'on appelle l'antinomie. Il y a des propositions qui ne peuvent pas être prouvées, ni dans un sens, ni dans l'autre. Par exemple, la création du monde. Alors, pour Kant, une des quatre antinomies de la raison pure, c'est qu'on ne peut pas prouver, ni infirmer, l'idée de création du monde. Alors, c'est très embêtant parce que quand Dieu a voulu créer le monde, il s'est dit, dans la critique de la raison pure, il est écrit que c'est impossible. En tout cas, ça reste douteux. Et donc, très embêté, le Créateur s'est gratté la tête et puis il s'est dit « Oui, mais j'ai des raisons morales de créer le monde. Alors je vais le créer et qu'après les philosophes fassent des doctorats. Ouais. » D'ailleurs, on voit très souvent ça, par exemple, dans la Dans l'enseignement de Maïmonide, que l'on présente souvent comme un philosophe, on voit que quand Maïmonide a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre par la spéculation philosophique, il le tranche par la morale. Et c'est la preuve d'ailleurs que Maïmonide était juif. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on sort un peu de notre sujet. Maintenant, après avoir donc tellement parlé de théologie et de choses élevées, je voudrais quand même rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que l'on entend exactement par aimer son prochain ? Il y a un texte très joli dans la Guémara qui explique que les auteurs de la tour de Babel étaient méchants comme les hommes de la génération du déluge. Bon, maintenant, les hommes de la génération du déluge, ce sont ceux qui ont transgressé de manière très, très forte le devoir d'aimer son prochain. C'était la violence remplissait la terre. Malaha aretz rama supenehem. Et par contre, la génération de la tour de Babel, eh bien, ils avaient de l'amour. D'accord ? Alors, la Guémara nous dit, les auteurs de la tour de Babel étaient aussi méchants que les auteurs de que les hommes de la génération du déluge, mais comme il y avait la paix entre eux, ils n'ont pas été détruits. Bon. Alors, ça nécessiterait tout un débat. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de la tour de Babel ? Parce que le texte biblique n'est pas clair. En tout cas, il y avait là-bas une société qui avait un projet. Le projet était de construire la tour. Construire une tour très haute qui monte jusqu'au ciel, selon l'expression biblique, ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de monde. Et tout le monde s'est mis à construire la tour. Mais ça prend tellement de temps qu'il est évident que des gens vont naître pendant la construction de la tour et mourront alors que la tour n'est pas encore finie. C'est-à-dire que l'entreprise humaine va prendre tellement de place que la vie individuelle des hommes n'aura plus d'intérêt. À tel point même, vous connaissez ce midrash, c'est bateau de le citer, que lorsqu'une brique tombait, tout le monde pleurait et disait quand est-ce qu'elle va être remplacée, alors que si un homme tombait, personne n'y faisait attention. Mais quelle était la motivation de ces gens-là ? Pourquoi ont-ils voulu faire justement une entreprise qu'on peut appeler du totalitarisme ? Ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu éviter, c'est ce que dit la tradition, que le déluge ne se reproduise. C'est-à-dire qu'ils avaient peur d'une seule chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, c'est-à-dire qu'ils soient jugés pour le respect ou le non-respect des valeurs. Et donc, ils ont voulu empêcher que le déluge ne se reproduise. Pour l'empêcher, eh bien, il fallait empêcher la violence qui avait rempli l'humanité avant le déluge. Et une de leurs intuitions a été probablement que la violence a pour source les différences entre les hommes. Et donc, il faut déraciner le mal, c'est supprimer les différences. Voilà, nous allons supprimer les différences, il n'y aura plus de violence. Et d'une certaine manière, ça veut dire, donc, pour que je t'aime, il faut que tu sois comme moi. Ou à la limite, pour que je puisse t'aimer, il faut que je sois comme toi. C'est une manière très polie de dire, je te déteste. C'est-à-dire, je ne t'aime pas. Parce que tant que tu es ce que tu es, je ne peux pas t'aimer. Alors je te demande de bien vouloir mourir, d'effacer ce qui est ta spécificité, pour que je puisse t'aimer. Donc il y a une tentation très dangereuse qu'on masque d'amour, qui est l'uniformisme. Nous devons tous être la même chose, parce que sinon nous allons nous entretuer. Eh bien non, le but n'est pas l'uniformité, le but c'est l'unité. Et l'unité c'est pas du tout la même chose. L'unité c'est admettre qu'il y a une différence différence de personnalité, des différences de manière d'être, et que tout cela peut se réunir autour d'un but, d'une finalité commune, mais sans pour cela effacer les différences. Au contraire, chacun, dans sa spécificité, a quelque chose à ajouter à l'autre. Cela, d'ailleurs, a des conséquences très importantes au niveau du mariage. Vous savez que les célibataires ne veulent pas se marier. Vous savez ça, non ? Non ? Les célibataires ne veulent pas se marier. Vous savez pas ça ? Non ? Mais c'est vrai. Les célibataires ne veulent pas se marier. Et la preuve, c'est que ça leur est difficile de se marier. Et la raison, c'est que on ressent un danger très grave dans la manière dont l'amour est conçu. J'ai l'habitude de présenter ça comme étant un problème de mathématiques. Il faudrait savoir comment est-ce qu'on règle l'équation x égale 1 plus 1. Alors c'est combien x ? Alors il y a ici trois opinions différentes. La première, c'est celle des mathématiciens qui est la plus superficielle, qui consiste à dire que 1 plus 1 sont égales 2. Ce qui est totalement faux. Parce que si 1 et 1 égale 2, mais nous étions 2 avant de nous réunir, alors comment ? L'addition n'a rien changé ? Alors la situation est la même avant et la situation est la même après ? Avant et après, ça ne vient pas de vous. Donc il est impossible, il est absurde de penser que 1 et 1 font 2. La deuxième réponse, qui est encore plus grave, c'est la réponse des romantiques. Les romantiques disent que 1 plus 1 font 1. C'est très grave parce que ça veut dire que le mariage, l'amour, c'est la mort. Et ça se retrouve d'ailleurs dans plusieurs expressions. Par exemple, je meurs d'amour. Ou bien en hébreu, il y a une expression populaire en hébreu moderne, c'est « ani met alayr ». Je crève de toi. C'est une façon d'aimer, d'accord ? Et on comprend très bien, parce que si pour aimer il faut fusionner, ça veut dire que je dois disparaître, et que toi aussi tu dois disparaître, nous allons être fondus dans quelque chose de nouveau, qui n'est ni moi ni toi, on n'a pas envie de mourir. D'accord ? Il y a une expression d'ailleurs en français, on enterre sa vie de garçon. D'accord ? Et donc c'est pour ça que très souvent dans la société moderne, on dit, ben voilà, il faut d'abord vivre sa vie, et puis quand on n'a plus grand chose à espérer de la vie, alors on se marie. C'est très grave, alors que ça devrait être le début de l'existence. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cela, par exemple, le Cantique des Cantiques, un chant d'amour, et bien effectivement, à la fin du Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit « Ki aza kamavet ahava » « L'amour est puissant comme la mort ». Il y a toujours ce problème, on risque de mourir dans le mariage. Et la véritable réponse, à mon sens, de l'équation mathématique, c'est que 1 plus 1 sont égales 3. C'est-à-dire que, il y a, comment ? Oui, 1 et 1, ça fait 3, évidemment. C'est-à-dire que je reste ce que j'ai été avant de te connaître, et toi aussi tu restes ce que tu as été avant de me connaître, mais en plus de ça, nous avons une caisse commune, c'est-à-dire nous avons le couple. Le couple est un troisième élément qui vient s'ajouter à notre vie indépendante chacun l'un de l'autre, mais à part ça, nous avons un engagement qui fait qu'une nouvelle réalité se crée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met les mariés sous un dé, qu'on appelle la roupa. La roupa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous transcende, il y a quelque chose qui me dépasse, moi et toi, et pour lequel nous travaillons ensemble. Ça peut par la suite se concrétiser dans les enfants, mais ce n'est pas les enfants. Les enfants, ça prend encore du temps. Ça prend quelque chose comme 9 mois, non, après le mariage, je crois. Au maximum. Bah oui. Comment ? Enfin, bon, non, je comprenais. Et donc, il y a dans la conception de l'amour, tel qu'on le voit dans nos sources, effectivement, il y a un refus donc de la disparition de la spécificité. L'amour véritable, c'est celui qui respecte la spécificité de chacun des aimants. D'où l'importance dans l'amour, d'accepter ce qui fait que l'autre est véritablement autre. Je voudrais, à ce propos, rappeler, par exemple, une des critiques les plus anciennes qui ont été faites contre le judaïsme dans les évangiles, dans l'histoire du bon samaritain. Vous connaissez cette histoire, certainement. Bon. Eh bien, l'histoire du bon samaritain, c'est une histoire... On raconte dans les évangiles que Jésus, à qui on avait demandé quel est le verset le plus important de la Torah, avait répondu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et alors, l'évangéliste fait intervenir un rabbin, un pharisien, qui demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Alors, vous comprenez, il y a une critique voilée, parce que le prochain dans la Torah, d'après la halakha, c'est le juif. Ce n'est pas le goy, c'est-à-dire... A priori, c'est très surprenant. Pourquoi est-ce que la Torah dit qu'il faut aimer le juif, qu'elle ne dit pas qu'il faut aimer le goy ? Très bonne question. Et la réponse que donne Jésus, c'est, il raconte l'histoire du bon samaritain. Voilà. C'est quoi l'histoire du bon samaritain ? Vous voulez un cours de christianisme ? Je dis déjà. Hein, vous avez fini avec le judaïsme, alors on peut commencer l'étude du christianisme. Alors, il raconte qu'un homme est blessé sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho. C'est la route de Mahalé Adumim. Oui, c'est vrai. Non, mais jusqu'à ce jour, d'ailleurs, il y a un endroit qu'on appelle, ou que l'on désigne comme étant ce lieu dans les évangiles. Et le personnage en question est attaqué et par des brigands qui lui prennent son argent, ses vêtements, qui le laissent blessé sur la route. Et puis alors passe un Romain. Et le Romain ne s'arrête pas. Et puis après passe un prêtre, un Kohen, qui ne s'arrête pas non plus. Et après vient un Samaritain qui s'arrête et qui le soigne. Il lui soigne sa plaie, il lui donne à manger, à boire, il lui donne des vêtements, il lui donne une somme d'argent, il le renvoie en paix chez lui. Et Jésus dit, voilà, c'est lui mon prochain. C'est lui que j'aime. Alors, on oublie souvent le contexte historique dans lequel ces choses ont été dites. Le contexte d'abord, c'est la lutte de la Judée pour son indépendance à l'époque romaine. N'est-ce pas ? Vous savez, il y a domination romaine à cette époque-là sur la Judée. Alors, le Romain est dès le départ évacué par Jésus, parce que Jésus était juif. Donc, il n'était pas question pour lui que « Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça puisse être l'idolâtre occupant la Judée. Ça ne lui passait pas par la tête encore, bien que par la suite, ça lui passait par la tête. Et puis, le deuxième, c'est l'aristocrate juif, c'est le Kohen. Oui, mais il est méchant. Alors, qui c'est qu'on va pouvoir finalement aimer ? Eh bien, c'est celui qui est monothéiste, mais qui n'est pas juif. C'est le Samaritain. Le Samaritain de l'époque, c'était des monothéistes qui habitaient la terre d'Israël et qui étaient en rivalité sur le même territoire. Et c'est lui que le fondateur du christianisme veut aimer. Le rival au niveau national, mais qui est à la fois monothéiste. Ah, il n'était pas lesbien du tout. Et... oui. Oui, vous avez compris la vanne. Il y avait un jeu de mots, mais c'est pas grave. Il faut bien comprendre que ce qu'a voulu le christianisme à l'origine, c'est effacer la spécificité nationale d'Israël. Et puis, par la suite, ça s'est retrouvé beaucoup plus fort dans le paulinisme, qui a affirmé ni juif ni grec, etc. Pourquoi est-ce que les rabbins ont critiqué cette attitude ? A priori, il y a de quoi dire de... Il y a du bien qu'on peut dire de ce bon samaritain. C'est un bon samaritain, il a fait du bien. Mais le problème, c'est que le fait que le Samaritain soit bon et donc qu'il soit louable pour ce qu'il a fait, ne peut pas servir de levier à effacer une identité. Or, c'est ça qu'a voulu Jésus. Il a voulu effacer l'identité nationale, prétextant la justice des goïms. Il y a des bons goïms, le Samaritain est un bon goï, et donc Israël n'a plus de justification à sa spécificité. Et là, c'est important de répondre. Je pense qu'il faut répondre. Ça fait quand même 2000 ans qu'on en parle, mais enfin c'est bon de répondre quand même. Si on oublie qui l'on est, on fait du mal à l'autre. Parce que si je refuse d'être ce que je suis, alors je ne peux pas remplir le rôle que mon identité particulière peut remplir envers l'autre. Je ne suis plus, je ne l'aime plus vraiment. Parce que je dis à l'autre, pour pouvoir t'aimer, il faut que je me suicide. Ça veut dire que je te gêne. Donc je justifie ta haine de ma spécificité, et donc je ne te rends pas un bon service. D'accord ? C'est comme par exemple quand les enfants demandent aux parents « Est-ce que vous ne voulez pas vous effacer un peu, vous nous dérangez ?» N'est-ce pas ? Alors les parents qui aiment leurs enfants, très bêtement, s'effacent. Eh bien non, ce n'est pas un service que j'ai rendu aux enfants en m'effaçant, parce que j'ai encouragé son mouvement de refus, son non-acceptation de l'autre. Et donc, si je veux le bien de mon enfant, je dois exiger ma présence. Et je dois refuser d'être effacé. Pas par égoïsme, oui ? Allez-y. Bah oui, c'est toujours la tentation des parents. Mais ça, on en a déjà parlé, je crois, plusieurs fois pendant ce séminaire, le problème de la mère polonaise. La mère polonaise. Ah, vous n'étiez pas là ? Bah, vous savez que dans toutes les communautés juives du monde, aussi bien séfarades qu'ashkénazes, il y a des mères polonaises. D'ailleurs, toutes les mères juives sont des mères polonaises qui refusent de laisser au fils l'indépendance, mais par amour. C'est mon fils, tu as besoin de moi. D'accord ? Surtout ne fais pas ton alia parce que. Bon, tu peux la faire, mais tu vas me laisser. D'accord ? Vous connaissez ce problème. Bon. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai toute seule dans l'obscurité et le froid. J'ai l'habitude. D'accord ? Ça s'appelle du chantage affectif, on connaît bien ces choses-là. Ça peut être très subtil d'ailleurs, ça peut être parfois inconscient, c'est à psychanalyser, mais enfin, ça existe. D'accord ? Alors, il y a tout ce problème, d'ailleurs, on voit ça dans la Torah. Ça nous écarte un peu de notre sujet, mais enfin, une petite seconde là-dessus. On voit que nos patriarches ont toujours eu la tentation d'aimer le fils qui leur ressemblait. Abraham aimait Ishmaël parce qu'Ishmaël lui ressemblait. Et Yitzhak aimait Ésaü parce que c'est Ésaü qui lui ressemblait. Yaakov aimait Yosef. Et à chaque fois, ça a créé des problèmes à n'en plus finir. Parce qu'il fallait en fait que le père accepte de reconnaître sa continuité dans le fils qui ne le ressemblait pas. D'accord ? Bon, enfin, ça, c'est des thèmes bien connus. Je voudrais revenir au problème de Ve'ahavta le'racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je voudrais, à ce propos, quand même vous faire une petite citation du Rav Kook. Vous avez ici une photocopie d'un texte du Rav Kook. Si quelqu'un veut bien la distribuer, sinon je le ferai moi-même. Bon, ça vous est gracieusement offert. C'est une photocopie, je tiens à le rappeler, qui a été faite à Jérusalem, et donc vous avez un cadeau d'Eretz Israël, c'est un parfum de Jérusalem. Vous allez voir, c'est quand vous sentez, vous rendrez compte que c'est une photocopie jérusalemite. C'est quatre lignes seulement. Voilà, quatre lignes. Il y en a plus ? Ben, je ne sais pas. Bon, il y en a plus. Ben non, il y en a encore, voilà, vous en avez là, plein. Voilà. Vous pouvez après l'encadrer, ça fait très beau. C'est un texte tiré d'un livre très peu connu du Rav Kook, le Pinkas Yud Gimel. Pinkas Yud Gimel, ça veut dire le carnet numéro 13. Pourquoi ça s'appelle carnet numéro 13 ? Nous nous demandons, ben, c'est trop compliqué, problème de bibliographie. Bon. Harbe tsarich adam la amol. L'homme doit beaucoup travailler. Ad sheyitzuyar lo karaouy, jusqu'à ce qu'il arrive à concevoir correctement. Sheyesh bametziut, qu'il y a dans l'existence. Olam zulat metziuto aporatit shel atzmo. Un monde autre que son monde particulier à lui-même. C'est-à-dire, c'est très difficile, on peut dire l'enjeu de la moralité, d'après le Rav Kook, c'est de découvrir qu'il y a autre que moi, un autre monde que le mien. Vous savez, il y a une très belle phrase de Rabbi Yehuda Halevi qui dit « Ve'ha'olam asher natan belibi, mena'ani levakesh ahariti ». Traduction. C'est dans les Piyoutim de Rosh Hashanah, traduction que donnait Manitou, mon cœur est un monde qui m'empêche de voir le monde. Bon, on peut discuter de la traduction, mais enfin, c'est ce qu'il dit le Rav Kook, c'est très difficile d'admettre qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on demande à un enfant, qui a un frère, on lui dit combien de frères tu as ? Il dit j'en ai un. Et après on lui dit, et ton frère, combien de frères il a ? Il dit il n'en a pas. Parce que on a du mal, au début de sa conscience, de comprendre qu'il y a une autre conscience que la nôtre. Et alors j'ai un frère, ça fait partie de mon univers, c'est ce que je rencontre. Mais je ne sais pas que l'autre est également un moi. Et bon, c'est tout le problème de Cain et Abel, on ne va pas revenir là-dessus. Pour Sheyedar Zekaraouy, et c'est lorsqu'il saura cela correctement, Rakaz, ce n'est qu'alors. Yucha leasi getboro, qu'il pourra connaître son créateur. Ça veut dire que l'autre, c'est la transcendance. Il n'y a pas de transcendance sans connaître un autre moi que soi. Vous avez remarqué, par exemple, lors de la faute du premier homme, dont on a parlé tout à l'heure, enfin, Marc Kujawski a dit qu'il n'y avait pas de faute. Bon, d'accord, j'admets. Mais qu'est-ce qu'il dit Qui c'est qui donne le fruit à l'homme? Non, c'est sa femme. C'est sa femme. Elle s'appelle comment? Pas du tout. Elle s'appelle comment alors? Elle s'appelle femme. La femme, n'est-ce pas? Vous imaginez ce que ça veut dire quand quelqu'un dit à sa femme, femme, fais-moi un café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas d'existence. Non, elle n'avait pas encore de nom, tout simplement. Et donc, c'est pas celui qui dit après 60 ans de mariage, chérie, fais-moi un café. C'est tout à fait autre chose. Et alors, non, c'est à l'invité qui dit, comment après 60 ans de mariage, vous appelez encore chérie parce que j'ai oublié son nom. Non, c'est pas ça dont il est question. Ouais. Non, non. Non, mais ça, on les connaît avant le cours. Vous savez. C'est quand on dit... Quand le premier homme rencontre sa femme, il est extasié de voir sa femme et il lui donne le nom de femme, Isha. Et puis, juste après, il y a le péché. Et alors, Dieu lui dit, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la femme que tu as mis avec moi. Il ne reconnaît pas le... Il n'est pas reconnaissant. Bon, il est ingrat. Et puis... Une fois qu'il est renvoyé du jardin d'Éden, il lui donne un nom et il l'appelle Hava, Ève. C'est-à-dire qu'il a compris que le péché est venu du fait qu'il était incapable de dialogue jusqu'à présent. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas de nom. Et donc, c'est un grand travail. Alors, je reprends ici le texte. Imken, ma sheveh ahavta lereacha kamocha hi kolelet kol haTorah kula. Ainsi donc, le fait que tu aimeras ton prochain comme toi-même implique toute la Torah, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Hainu gamken yesoda emet vedat Hashem Yitbarach. Cela inclut également la connaissance du Créateur. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder à aucune des branches de la Torah, y compris les connaissances théologiques, tant qu'on n'a pas compris qu'il y avait quelqu'un d'autre que soi. Et c'est pas du tout une évidence. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des gens autour de soi, mais c'est insolite. Bon, vous savez ce que disait Sartre. L'enfer, c'est l'autre. Les autres. Les autres. Voilà, c'est ça l'enfer. D'accord? C'est effrayant de penser qu'un philosophe a pu penser comme ça. Mais enfin, ça peut être aussi sa logique. Maintenant, je voudrais rentrer dans la question, disons... qui a opposé le christianisme et le judaïsme à propos de Ve'ahavta le'racha kamocha, c'est l'amour des goïms. Bon, vous savez qu'il y a toujours tout un problème autour de ça, qui est le prochain. Je tiens à rappeler par exemple que lorsque Napoléon a demandé... Est-ce qu'on peut fermer la porte? Lorsque Napoléon a réuni le grand Sanhédrin, une des questions qui a été posée au Sanhédrin était est-ce que les Juifs considèrent les Français comme leurs frères? Et non, pas seulement les Français, est-ce que les Juifs considèrent les non-Juifs comme leurs frères? C'était la première question, et puis après aussi la question sur les Français. Et la réponse du... Vous savez que les réponses du grand Sanhédrin ont été formulées par un très grand maître de la Torah, c'était le Rav David Zinsheim, qui n'était pas n'importe qui. Et il y avait des ambiguïtés, évidemment, beaucoup de problèmes dans les réponses qui ont été données aux questions de Napoléon. Et la réponse était... Mais bien sûr... Non, 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 il n'a pas dit ça. Il a dit, bien sûr que nous aimons tous les hommes. D'ailleurs, la Torah ne nous a-t-elle pas dit... qu'il fallait aimer notre prochain comme nous-mêmes. N'est-ce pas? Bon, c'est se moquer du monde dans cette réponse. Parce que le rabbin, il savait très bien que dans la halakha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le juif. Mais enfin, c'était suffisant pour Napoléon. Mais enfin, à nouveau, le problème se pose. Vous savez qu'il y a eu des rabbins au XIXe siècle, tels que par exemple le rabbin Ilia Ben-Amozeg, qui ont... essayer de prouver sur la base des textes traditionnels que tu aimeras ton prochain comme toi-même concerne également les goïms. Mais, en vérité, c'est faux. C'est-à-dire, du point de vue de la halakha, je ne vais pas rentrer dans le détail des sources, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il s'agit du juif. Qu'en est-il des nations? Eh bien, il y a un texte à nouveau du Rav Kook qui mérite d'être médité, qui est que Tu aimeras ton prochain comme toi-même est accompli par Israël envers les nations en tant que collectivité. C'est-à-dire, ça ne se passe pas au niveau de l'individualité. C'est-à-dire, d'individu à individu, ce devoir n'existe pas. Il n'est pas interdit. On a le droit d'aimer des goïms. Hein. Non, je vous assure, on a le droit d'aimer. Mais il n'y a pas de devoir normatif. Ce devoir est transféré envers les collectivités humaines. C'est-à-dire de peuple à peuple. Pourquoi cette différence? Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Tout d'abord, il y a une raison pratique. C'est que si on a le devoir d'aimer son prochain comme toi-même de manière indifférenciée, alors puisqu'il s'agit d'une halakha, une halakha c'est quelque chose que l'on doit accomplir. Or, aimer tout le monde avec tout le sérieux que ça implique, ça risque de mettre en danger la collectivité. Parce que quand on aime ceux qui peuvent être nos ennemis, alors il y a un danger, effectivement, il faut savoir se protéger. Mais, attention, condition très importante, un des grands maîtres de la tradition kabbalistique, je parle de Rabbi Chaim Vital, a écrit dans son livre Sha'ar Kedusha que l'on ne peut pas accéder au Ruach HaKodesh, c'est-à-dire à l'inspiration sainte, si l'on n'aime pas l'égoïsme. C'est-à-dire qu'on ne peut accéder au Ruach HaKodesh, et il fait toute une liste d'avoir des conditions nécessaires pour devenir donc un homme quasi prophétique. Il dit qu'il faut aimer toutes les créatures, l'égoïme y compris, il le dit en toutes lettres. Mais alors dans ce cas-là, si c'est vrai, c'est donc que c'est bien d'aimer l'égoïme. Alors pourquoi est-ce que la halakha ne l'a pas dit? C'est parce que la halakha, elle est pratique. Elle connaît les dangers de ces choses-là. Et elle laisse donc une marge de développement de cet amour selon les conditions historiques. Plus les conditions historiques le permettront, plus on pourra appliquer le ve'aftar l'halakha kamocha envers toutes les nations. Et il y a... Maintenant, cette idée que l'amour se traduit au niveau des collectivités est très importante. Vous savez qu'il y a un texte à nouveau dans la tour de Babel, quand les hommes ont décidé de construire la tour, il est dit « Vayomeru ish el re'ehu ». Ils se dirent « chacun à son prochain ». Rashi explique ça veut dire quoi « chacun à son prochain ». Il dit « Uma el Uma », une nation à une autre. Ben, ça veut dire qu'à l'époque, les fondateurs de la tour étaient chacun une nation, et donc que l'amour du prochain était un amour de nation à nation. C'est-à-dire que c'est une époque quasi messianique. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, alors que la relation habituelle entre nations, c'est l'étranger, eh bien à l'époque, c'était l'amour. Vayomeru ish el re'ehu, chacun considérait l'autre nation comme étant son prochain. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que le projet de l'amour est un projet sérieux. Nous voulons transformer l'humanité, nous voulons arriver à une situation d'entente universelle. Or, l'entente universelle n'est pas possible si le devoir de l'amour est un devoir uniquement du prochain envers le prochain, de l'individu envers l'individu. Ce n'est possible que si il y a une entreprise qui concerne les collectivités en tant qu'entité politique. Vous savez que c'est pour ça que la Torah s'occupe tout le temps de politique. Vous savez, le projet de la Torah est un projet politique. Il y avait même un juif très intéressant qui avait dit ça, un juif à Amsterdam, qui s'appelait Benoît, je crois, qui avait dit, qui a écrit dans son traité théologico-politique, que les lois de la Torah n'étaient pas applicables en exil, parce que quand on lit objectivement le texte de la Torah, on se rend compte que c'est la constitution politique du peuple juif sur sa terre. Et donc, c'est ce qu'affirmait Spinoza, c'est que la Torah n'a jamais eu l'intention que l'on accomplisse les mitzvot en galoute. Bon, vous savez que la tradition n'est pas d'accord avec Spinoza. Mais c'est quand même intéressant, parce que qu'est-ce qu'il voulait dire Spinoza? Il voulait dire que, et il dit quelque chose qui est d'ailleurs répété dans le Sifri, avant lui déjà par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est que quand on parle de projet de la Torah, c'est tout d'abord pour une société organisée. Et le fait qu'on applique le Ve'aftar l'Erachamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le cas d'une communauté, on va aider les personnes nécessiteuses, c'est très joli, mais ce n'est pas ça dont on parle. Ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est tu deviendras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc, quand on parle d'amour du prochain, c'est d'abord l'amour des nations en tant que nation. Et donc, il faut faire tout un travail, et ça, c'est un travail qui commence aujourd'hui à Jérusalem, pour savoir quel est le message que Israël, en tant que société organisée, en tant qu'État, peut donner aux nations. Et c'est en fait tout le projet qui, jusqu'à présent, n'était pas réalisable, le projet des lois noachides. Vous savez qu'il y a toute une législation prévue pour l'humanité par la Torah, ce qu'on appelle la législation des Béné Noir. Et tout cela, jusqu'à présent, n'a pas été très développé. Mais aujourd'hui, en Israël, il y a un intérêt, un regain d'intérêt de la part des goïms pour ce que le peuple juif a à lui apporter, à leur apporter. Et il est temps qu'un jour soient fondés des yeshivot pour les nations. Des yeshivot à Jérusalem, mais attention, pas n'importe quoi. Il faudrait 70 yeshivot pour chacune des 70 nations, pour voir quelle est la partie de la Torah qui correspondrait à leurs besoins à eux. Et il faudrait à part ça 70 yeshivot supplémentaires pour former les juifs qui enseigneraient dans les 70 yeshivot pour nations. Il faudrait encore une autre yeshiva pour coordonner tout ça. Ça fait donc 141 yeshivot à fonder. Et je pense que le FSJU craquerait si on lui demandait de s'y mettre. Et donc, en tout cas, c'est ça le projet. Alors évidemment, vous allez me demander, et là je voudrais finir avec ça, qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain quand il s'agit d'une nation comme Amalek ? Hein ? Est-ce qu'on peut aimer Amalek ? Alors, vous dites, il y a une mitzvah de détruire, donc on ne peut pas l'aimer. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, vous dites, puisqu'il y a une mitzvah de le détruire, donc on ne peut pas l'aimer. Vous savez qu'il y a une règle dans la Mishnah, qui est que lorsque l'on met à mort quelqu'un au tribunal, il y a des tas de raisons de mettre quelqu'un à mort au tribunal, alors la halakha dit qu'il faut le faire de manière qu'il ne soit pas dégradante. Alors, il y a différentes règles. Comment mettre quelqu'un à mort sans que ce soit dégradant ? Et la raison de cette règle, dit la Mishnah, c'est parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut le tuer de manière respectable. D'accord ? Par amour pour lui, il faut le mettre à mort de manière qui respecte sa personnalité. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un devoir moral de le mettre à mort parce que c'est un élément nocif de la société, c'est une chose, mais l'amour que l'on a pour lui n'est pas entamé par cela. Donc conclusion du Rav Kook, Amalek aussi peut être aimé, il doit être aimé par ceux qui sont capables également de le détruire. Maintenant, si il y a contradiction entre les deux, alors on préférera renoncer à l'amour d'Amalek pour pouvoir le détruire, parce que si cet amour d'Amalek fait que finalement on ne le détruit pas, on n'a pas fait du bien au monde. D'accord ? Enfin, je veux dire que jusque-là, c'est, vous dire, le sommet de l'amour peut arriver également à la destruction d'éléments nocifs, mais ça nous sortirait un peu trop loin de notre sujet, et donc je vous remercie de votre attention et vous souhaite je nous souhaite que nous nous retrouvions très bientôt à Jérusalem pour la suite des séminaires. Shalom.
Juste, qu'est-ce que ça veut dire détruire ?
Bon, ça c'est tout le problème de la Teshuvah. Ça, c'est là chez Yonah, il n'accepte pas le principe de la Teshuvah. Il y a tout un problème. Yonah n'accepte pas l'idée même de la Teshuvah. Oui, bon. Mais pour Amalek aussi, vous savez que si Amalek fait Teshuvah, il n'est pas détruit. Oui.